Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 octobre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, le gouvernement dément avoir mandaté un ministère pour négocier avec les djihadistes.
En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, nomme 3 ministres, dont celui de la Défense et le secrétaire général du gouvernement.
Le président Biden affirme que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque de la Chine.
La Chine et les Occidentaux qui s'accusent de violation des droits humains.
En Haïti, le chef de gang, ravisseur de missionnaires nord-américains, menace de tuer ses otages.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, le gouvernement a démenti hier soir avoir mandaté qui que ce soit pour négocier avec certains djihadistes, quelques jours après une annonce en ce sens par l'un de ses ministères. Le point avec Michel Joseph.
Le gouvernement informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à ce jour, aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement pour mener une telle activité, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Lorsque le gouvernement de la République du Mali jugera opportun d'ouvrir des négociations avec des groupes armés, de quelque nature que ce soit, le peuple malien sera informé par les canaux appropriés, ajoute-t-il. Le ministre des Affaires religieuses, Mahamadou Koné, avait été cité dans un communiqué la semaine dernière, déclarant que ses services avaient été chargés d'une mission de bon office en direction des groupes armés radicaux. La France, principal allié du Mali, a toujours refusé un tel dialogue.
Autre forme de discorde entre Paris et Bamako, l'affaire Wagner. À ce sujet, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que cette société de sécurité privée russe ne reflète pas les intérêts du Kremlin, après des informations selon lesquelles des centaines de ses employés se dirigeaient vers le Mali. Le point avec Ginny Kapumbu-Villa.
La France et l'Allemagne ont mis en garde le Mali le mois dernier contre un accord présumé avec le groupe privé russe Wagner pour embaucher 1000 mercenaires. Ce groupe ne reflète pas les intérêts de l'État russe, a déclaré Vladimir Poutine depuis la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire. Monsieur Poutine a réitéré que Wagner est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, de l'or ou les pierres précieuses. Mais si ces activités entrent en conflit avec les intérêts de l'État russe, alors bien sûr nous devons réagir, a déclaré le président russe. Il affirme avoir discuté du sujet à plusieurs reprises avec le président français Emmanuel Macron. Le groupe paramilitaire Wagner serait financé par l'homme d'affaires Yevgeny Prigozhin, proche de Poutine. Il a été frappé de sanctions par l'Union européenne et les États-Unis qui l'accusent de déstabiliser la Libye. Prigozhin a toujours nié des liens quelconques avec le groupe Wagner.
Au Burkina Faso, les autorités ont autorisé hier le Conseil norvégien pour les réfugiés à reprendre ses activités suspendues le 27 septembre dernier. L'ONG, qui avait été accusée d'avoir jeté le discrédit sur le gouvernement, aurait fait son mea culpa, selon les autorités.
En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir depuis septembre, a nommé 3 militaires ministres dans le gouvernement de transition du premier ministre Mohamed Béavogui. Le général à la retraite, Aboubakar Sidiki Camara, ancien ambassadeur de la Guinée à Cuba, réputé proche de Doumbouya, a été nommé ministre délégué chargé de la défense nationale.
Selon un décret lu sur la télévision nationale, le colonel Bachir Diallo, ancien conseiller militaire à l'ambassade de Guinée au Canada, a été nommé ministre délégué à la sécurité et à la protection civile. Abdourahmane Sike Camara est nommé secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Et Luopu Lama, précédemment directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, est devenue ministre de l'environnement et du développement durable.
Et en Sierra Leone voisine, le gouvernement a présenté ce jeudi un projet de loi qui permettra aux femmes d'occuper 30% des sièges du Parlement et des postes ministériels. Le président Julius Maada Bio a approuvé l'initiative cet été, conformément à une promesse électorale. Le projet de loi vise également à améliorer l'accès des femmes au financement et à lier les dépenses publiques à l'amélioration de l'égalité des sexes.
Au Nigeria, 30 étudiants kidnappés par un gang criminel il y a plus de 4 mois dans le nord-ouest du pays ont été libérés, selon une annonce faite hier par les autorités locales. Nathalie Barge.
30 étudiants du Federal Government College Benin Yori sont arrivés à Benin Kebbi, la capitale de l'état de Kebbi, après leur libération, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du gouvernement local, Yahya Sarki, ajoutant que les efforts se poursuivent pour obtenir la libération des autres étudiants. Des hommes armés ont attaqué le collège du gouvernement fédéral à Kebbi le 17 juin. Selon des habitants, les assaillants ont blessé 5 personnes, dont 4 étudiants. Des groupes criminels ciblent les états du centre et du nord-ouest, pillant des villages, volant du bétail et kidnappant contre rançon. Ils ciblent également les écoles, enlevant des élèves pour obtenir des rançons. Plus de 1000 étudiants ont été enlevés depuis décembre par des hommes armés.
En Libye, une conférence ministérielle internationale s'est tenue ce jeudi à Tripoli pour consolider le processus de transition. Cette conférence survient au moment où le pays s'engage dans la dernière ligne droite vers des élections. Le point avec Mohamed Houmfa.
Selon le communiqué final lu par la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, le gouvernement libyen s'est engagé à respecter les résolutions de l'ONU et à créer un environnement propice à la tenue d'élections nationales transparentes et inclusives le 24 décembre. Tripoli a également réitéré son refus des ingérences étrangères dans les affaires libyennes et les tentatives de semer le chaos en Libye. Elle a promis que la Libye respecterait ses engagements en matière de droits humains. Plusieurs chefs de diplomatie, dont le français Jean-Yves Le Drian et l'italien Luigi Di Maio, ont assisté à la conférence aux côtés d'homologues de pays arabes. Dans un discours devant les participants, M. Le Drian a salué les progrès remarquables réalisés sur les plans politiques et sécuritaires. La tenue des élections présidentielles et législatives le 24 décembre est désormais à la portée de main après l'adoption de la base juridique nécessaire à leur organisation, a-t-il déclaré. Aucune annonce n'a cependant été faite sur une réunification de l'armée. Si en théorie le pays dispose désormais d'un pouvoir unifié, la région orientale de Cyrénaïque est contrôlée de facto par le maréchal Khalifa Haftar, lui-même candidat probable à la prochaine présidentielle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Russie, la mairie de Moscou se prépare à une fermeture de 11 jours de tous ses services non essentiels à compter du 28 octobre dans l'espoir d'endiguer la grave flambée de l'épidémie de COVID-19 qui frappe le pays. Claire Morin-Gibourg.
Restaurants, salons de beauté, magasins de vêtements ou de meubles, salles de sport ou écoles de danse ont 8 jours pour s'organiser avant cette fermeture. Parallèlement, une semaine chômée dans tout le pays a été annoncée par Vladimir Poutine. Le président russe va s'abstenir pendant cette période de participer en personne à tout événement et va travailler à distance, a annoncé le Kremlin. Depuis des semaines, la Russie ne cesse de battre ses records quotidiens de décès et de contamination, une hécatombe à mettre en lien avec le faible taux de vaccination, à peine 32% de la population, et les autorités ont tardé à réagir. Ces derniers jours, elles ont finalement annoncé leurs premières mesures concrètes, comme la mise en place du pass sanitaire et le renforcement du télétravail. Moscou est de loin le principal foyer épidémique du pays et son maire, Sergueï Sobyanin, a ordonné hier la suspension du travail de la majeure partie des entreprises pour une période qui coïncide avec des vacances scolaires. Pour lui, la situation à Moscou continue d'évoluer selon un scénario du pire.
Le président américain Joe Biden a affirmé hier que les États-Unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque par la Chine qui considère l'île comme faisant partie de son territoire. Oui, nous avons un engagement en ce sens, a déclaré M. Biden lors d'un échange retransmis sur CNN avec des électeurs à Baltimore. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, le financement de l'habitat au Cameroun pâtit des conséquences du non-remboursement des créances, des difficultés de recouvrement rapide par voie judiciaire, du taux d'endettement élevé de la clientèle et du changement de domiciliation bancaire des clients. Le déficit de logements est estimé à 2,5 millions d'unités en milieu urbain, malgré l'existence du crédit foncier du Cameroun. MSF Africa a signé un accord pour acquérir Capricorn Digital. L'entreprise vise à amener les petites et moyennes entreprises du Nigeria vers le reste de l'Afrique et du monde. Présente dans plusieurs pays africains, MFS Africa a créé le plus grand hub de paiement numérique du continent, connecté à plus de 170 millions de portefeuilles mobiles en Afrique subsaharienne. Capricorn gère un réseau de paiements numériques sous la marque Baxi. Les eurodéputés ont demandé hier à la Commission européenne de fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions de méthane, tout en appelant à un accord mondial à la COP26 prévue à Glasgow en novembre. Le mois dernier, l'Union européenne et les États-Unis ont appelé d'autres pays à rejoindre leur projet visant une réduction des émissions de méthane d'au moins 30% d'ici 2030.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le parquet a requis à Versailles en France 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende contre Karim Benzema. L'international français est accusé de complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape, dont la victime présumée est son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Contre les quatre autres prévenus, Mustapha Zaoui, considéré comme le cordon ombilical de cette affaire, Karim Zenati, l'ami d'enfance de Benzema, Axel Angot, qui a trouvé la vidéo et l'a conservée en vue d'une utilisation ultérieure, l'intermédiaire Younes Hawass. Le ministère public a requis des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à 4 ans de prison. Le stade qui accueillera la finale du Mondial 2022 au Qatar, le Lutsey Stadium, est terminé à 98,5%, a déclaré le chef de projet en charge de l'équipement. Selon Tamine El Abed, les phases de test et d'homologation nécessaires au fonctionnement du site représentent le 1,5% restant. Le stade, situé à 20 km de la capitale Doha, pourra accueillir de 85 000 à 86 000 spectateurs, bénéficiant d'une vue totalement dégagée sur le terrain. Il fait partie des 8 stades flambant neufs bâtis de toutes pièces pour cette Coupe du Monde Qatari. Le président du Bayern Munich, Herbert Henné, dit être opposé à l'organisation d'une Coupe du Monde de football tous les deux ans, comme le propose la FIFA. Les joueurs, les entraîneurs, tous ceux qui exercent des responsabilités dans le club se plaignent des trop nombreux matchs et maintenant le rythme des Coupes du Monde devrait être augmenté. Cela n'a aucun sens, a affirmé le dirigeant du géant allemand. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé mercredi à trouver un consensus sur la question de l'organisation d'une Coupe du Monde biennale et annoncé la convocation d'un sommet en décembre sur la question. Et parlant du Bayern Munich, son entraîneur Julian Nagelsmann, pourtant vacciné, a été contrôlé positif au Covid-19 et va se placer en quarantaine, a annoncé le club. Le coach de 34 ans n'était pas présent mercredi à l'Estadio d'Alus pour assister à la victoire de son équipe 4-0 en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne. Il avait cependant fait le déplacement au Portugal mardi, mais était resté isolé à l'hôtel par précaution. Selon le ministère de la Santé, toute personne testée positive au coronavirus doit se mettre 14 jours en quarantaine. En théorie, Nagelsmann devrait ainsi rater 4 rencontres du Bayern, dont le match retour à domicile contre les Portugais le 2 novembre. Il pourrait retrouver le banc contre Fribourg le 6 novembre.
Merci Yacouba. De résultats NBA, eh bien Milwaukee, tenant du titre, a été littéralement massacré par Miami, 137 à 95. Et puis Golden State a battu Los Angeles Clippers, 115-113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, le leader séparatiste Nnamdi Kanu a comparu hier matin devant le tribunal à la reprise de son procès à Abuja. Le chef de l'IPOB, mouvement des peuples indigènes du Biafra, est accusé entre autres de terrorisme, de trahison et de gestion d'une entreprise illégale. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Des chants de sympathisants du chef séparatiste de l'IPOB rassemblés devant la Haute Cour fédérale à Abuja pour soutenir leur leader. Toutes les routes menant à la Haute Cour fédérale ont été bloquées tôt ce matin avant le début du procès. Des agents de sécurité ont aussi empêché de nombreux avocats d'entrer au tribunal. Ifeanyi Ijefo est l'avocat de Nnamdi Kanu.
Je suis là pour informer la presse que je ne vais entrer seul au tribunal aujourd'hui. J'irai à l'intérieur avec ce groupe d'avocats venus montrer leur solidarité. Donc je suis resté dehors pour protester. Ils veulent me forcer à aller seul. Mais ces gens-là sont aussi des avocats comme moi. Ils sont venus apporter leur soutien à la loi.
Nnamdi Kanu, chef du mouvement des peuples indigènes du Biafra IPOB, a plaidé non coupable des 7 chefs d'accusation retenus contre lui. Il a déclaré qu'il était innocent de toutes les allégations portées contre lui. À la sortie de l'audience, un de ses avocats fait le point.
L'affaire a été reportée au 10 novembre pour entendre notre contestation sur la compétence de cette juridiction à juger cette affaire. Notre client était à la cour aujourd'hui et nous espérons que justice sera faite à la fin. C'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui à la cour. Donc rendez-vous est pris le 10 novembre pour délibérer sur notre requête.
Au cours de l'audience, le tribunal a rejeté sa demande de transfert des locaux des services de renseignement où il est présentement détenu au centre correctionnel de Koudjé. Le gouvernement fédéral a récemment modifié les charges retenues contre lui en les portant à 7 contre 5 chefs d'accusation pour lesquels il était jugé auparavant. Oyele Somore est un activiste et ancien candidat à la présidentielle de 2019.
La salle d'audience de la cour sera incomplète sans le peuple pour observer ce qui se passe. Et si c'est un procès à huis clos, le public doit être informé. Mais vous ne pouvez pas avoir un procès dans une salle d'audience publique de la cour. Donc je veux m'asseoir devant le juge et le public pour voir ce qui va se passer.
L'IPOB avait menacé lancer à nouveau des opérations ville morte dans les régions du sud-est si Nnamdi Kanu n'est pas présenté devant la cour ce matin. Le groupe séparatiste a également exigé une couverture médiatique des procédures juridiques. Un appel qui n'a eu aucun effet car les forces de sécurité ont simplement refusé l'accès des journalistes au tribunal. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
Le Bénin est devenu ce jeudi l'une des très rares nations en Afrique à autoriser l'avortement après le vote par l'Assemblée nationale d'une loi qui divise fortement l'opinion. Reportage à Cotonou de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Longtemps agitée par les pro-avortements sécurisés, la loi qui donne le droit aux femmes béninoises d'avoir recours à l'avortement dans certaines conditions a été votée par les députés. Une banalisation de la vie humaine selon la conférence épiscopale représentée par Mgr Eugène Rondécan.
Cette loi n'est rien d'autre qu'une légalisation pure et simple de l'avortement. Face à une décision aussi grave, les évêques du Bénin rappellent à tous le respect inconditionnel du caractère sacré et inviolable de la vie, surtout de celle de l'innocent.
Plus de 200 femmes décèdent en silence chaque année des suites d'avortements compliqués et non sécurisés. En 2003, le Bénin avait déjà perçu le danger en adoptant une loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Ce texte, en son article 17, avait autorisé le recours à l'interruption volontaire de grossesse dans des conditions exceptionnelles, notamment quand la grossesse met en danger la vie de la femme enceinte, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse, ou lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité. Jeudi, les députés ont complété ces dispositions donnant droit à la femme de décider d'interrompre une grossesse si elle sait qu'elle n'a ni les moyens financiers éducatifs pour s'occuper de l'enfant. Pour Abdoulaye Razak, imam d'une mosquée à Cotonou, qu'importe les conditions, on n'a pas le droit de mettre fin à une vie.
Avorter un embryon ou un fœtus, c'est empêcher son développement normal. Alors, lorsque vous empêchez un processus qui vise à donner un résultat, qui est l'arrivée au monde d'un être humain, alors c'est dangereux. Surtout que si vous le faites consciemment.
Pour le révérend pasteur Miché Agboaï, l'homme ne devrait pas se substituer à Dieu et décider de l'avenir d'une vie qui ne lui appartient pas.
Dans la Bible, c'est clair. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Il est hors de question qu'un homme reprenne la vie, même celle qu'il prétend ne pas voir et qui est sous forme embryonnaire dans le sein de quelqu'un. L'homme n'a pas le droit de reprendre la vie, tout comme l'homme n'a pas le droit de se faire justice et en commettant une meurtre.
Ne faut jamais tuer vos enfants sur la crainte de la pauvreté.
Les Béninois sont divisés sur la question. Pour certains, les députés n'ont fait que donner un caractère officiel à quelque chose qui se faisait depuis des lustres. Pour le gouvernement, il est nécessaire d'en arriver là si l'on veut arrêter le carnage en cours. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, parle d'un vote historique qui va protéger la femme, mais les religieux invitent déjà la Cour constitutionnelle à se pencher sur cette loi qui ne tient pas compte du caractère sacré de la vie humaine. De Cotonou, Jeannette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, le front du refus de la vaccination obligatoire contre le COVID-19 s'élargit suite à l'interdiction aux fonctionnaires non vaccinés d'accéder à leur lieu de travail. L'Ordre des avocats et plusieurs syndicats protestent contre de telles mesures. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
D'après une note d'information signée par les ministres de la fonction publique et de la santé, tous les agents publics actifs et ceux qui ont été admis à faire valoir le droit à la retraite sont concernés par une campagne gratuite de vaccination contre le COVID-19 au cours du mois prochain. La note divise les fonctionnaires.
Le vaccin ne doit pas être obligatoire. Ce vaccin-là qui est obligatoire, là, est-ce que c'est d'abord un vaccin qui nous concerne?
Obligatoire, pourquoi maintenant? Donc, venez vers moi m'expliquer clairement que, bon, comme du vaccin, là, ça va pour tel but. Je vais me rendre à l'hôpital pour me vacciner.
Si c'est une bonne chose, je crois que ce serait une exigence. Il faut que, avant de le faire, que les Camerounais soient suffisamment imprégnés, qu'ils acceptent le vaccin et que les constituants de ce vaccin soient exposés aux Camerounais.
Chacun son organisme et chaque personne a sa santé à lui. Rendre ça obligatoire, ce n'est pas vraiment évident.
Par des notes de service, le vaccin contre le COVID-19 a été imposé au personnel de la présidence de la République, du ministère de la Santé publique, au quotidien national Cameroun Tribune et à l'hôpital général de Yaoundé. Interpellé sur la question, le ministre de la Santé a déclaré que la vaccination préventive est obligatoire au Cameroun et indiqué que la loi prévoit des poursuites contre toute personne qui met en danger la vie de l'autre en refusant de se protéger contre une maladie. Dans la région de l'Est, par exemple, les agents publics non vaccinés ont été expulsés des bureaux par le gouverneur Grégoire Mvongo, qui s'explique.
À la date du 11 octobre, l'accès sera interdit dans les services publics régionaux, départementaux et d'arrondissement à tous les agents publics non vaccinés contre le COVID-19 ou disposant d'un test de dépistage négatif de moins de 72 heures.
La Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun s'inquiète de cette généralisation de l'exigence du vaccin anti-COVID dans les administrations publiques en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire. une atteinte grave aux libertés, selon Pederine Tchatat, avocat au barreau.
Ces administrations qui empêchent l'accès dans les services aux employés violent le droit de ces employés, il faut le dire. Et ils sont en mesure de porter plainte pour se faire réparer ce préjudice. Il n'y a pas de loi concernant la vaccination sur la COVID-19 au Cameroun. C'est une crise sanitaire qui a surpris plus d'une personne. Il faut une loi de l'Assemblée nationale. Parce que même un simple décret présidentiel ne pourrait pas passer en l'état. Il s'agit d'engager une politique de santé publique.
Seulement 1% de la population camerounaise est totalement vaccinée. D'après les statistiques, le collectif des syndicats des enseignants du Cameroun a annoncé mardi qu'elle n'exclut pas de lancer une grève nationale pour contester une éventuelle campagne de vaccination obligatoire qui viserait les enseignants. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Chine est qualifiée d'usine du monde aussi lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées partout. Les retards de production ont été suivis par les retards d'expédition. Maintenant, il est difficile et parfois impossible d'obtenir certains produits. Un reportage de Caroline Pressouti repris ici par Claire Morin-Gibourg.
C'est l'heure du déjeuner au Green Peak Bistro. Et cela pourrait même être un des samedis les plus chargés depuis 10 ans pour ce restaurant basé en Virginie. Les clients sont de retour. Au-delà des commandes de nourriture, il manque plusieurs choses à la chef cuisinière Tracy O'Grady, notamment une plaque à induction.
Cela fait 2 mois et demi que nous attendons cette plaque.
Et 4 mois pour recevoir une cave à vin.
Ça peut être encore sur un bateau, à l'usine, dans le port ou dans un camion.
La pandémie de COVID-19 a créé un retard majeur dans l'approvisionnement des produits en provenance de Chine. De plus, les goulots d'étranglement dans les ports américains ont contraint des dizaines de porte-containers à attendre au large. Sans travailleurs pour décharger et sans espace d'entrepôt disponible, il n'y a pas de solution pour acheminer les produits aux consommateurs. Et beaucoup d'Américains attendent quelque chose. Ces mamans s'inquiètent pour les cadeaux de Noël.
J'essaie d'acheter la PlayStation 5 depuis plus d'un an. Certains blogs répertorient des sites où vous pouvez les trouver, où c'est disponible. Mais le temps de se connecter, tout disparaît.
Ajoutez à cela les vélos, les voitures, les chaussures et les appareils électroniques. James Sampson possède la chaîne de magasins Wireless RXX dans la région de Washington DC. Presque tous ses composants sont expédiés de Chine. Ce qui prenait auparavant de 3 à 5 jours prend maintenant jusqu'à 8 semaines.
Cela affecte notre client. Cela affecte les prix que nous devons donner aux clients parce que les prix d'expédition augmentent. Et cela affecte le temps pendant lequel nous pouvons réellement faire les préparations.
Le président Biden a déclaré que les ports californiens avaient accepté de fonctionner 24 heures sur 24, y compris les week-ends, pour éliminer ces engorgements. Au-delà de ça, il dit que les États-Unis doivent investir aux États-Unis.
Jamais notre pays et notre économie ne doivent être incapables de fabriquer les produits essentiels dont nous avons besoin parce que nous n'avons pas accès aux matériaux pour fabriquer ce produit.
La chef O'Grady est d'accord, mais pour l'instant, elle doit compter sur l'économie mondiale.
Je ne suis pas certaine que cela affecte nos résultats, mais cela affecte évidemment notre stress et cela m'éloigne des choses que j'ai vraiment besoin de faire.
Comme pour laver une assiette rapidement, ne pas avoir à courir derrière la pièce qui manque au lave-vaisselle.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Nani Talani, Michel Joseph à la mise en onde et Nicolas Ivanov à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.